de grande liberté, avec un calme et une sécurité évidente. Et je me suis retrouvée en Union soviétique, en Russie, et j'ai vu un peu les... Alors, j'ai vu la montée du nationalisme extrême, le nationalisme ethnique. J'ai vu des changements de pouvoir là qui se faisaient en quelques jours. Et j'ai vu des amis tomber au combat, des journalistes qui sont morts et des amis à moi, des politiciens aussi qui sont décédés. Et évidemment, ça m'a marqué à vie. Et quand on couvre ces conflits-là, on a des amis qui décèdent. Évidemment que ça devient extrêmement émotif. Mais malgré tout, je pense que c'est important, quand on est journaliste de guerre, de toujours garder un recul, de jamais prendre parti, qu'en fait, la vérité est très difficile. Il y a toujours deux côtés à la médaille et il faut user de beaucoup, beaucoup de sagesse. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant et c'était des leçons de vie et que j'amène avec moi pour toujours.
Madame Robitaille, vous êtes branchée sur l'actualité la semaine dernière. Une chose qui m'a frappée, c'est une grande dame et en communication, que je pourrais dire, hein, qui avait des parents également et très connus. Je parle de Pascal Nadeau, après plus de 3 décennies, qui a décidé jeudi dernier de prendre sa retraite. Comment vous avez commenté ou bien accueilli cette nouvelle-là de Mme Nadeau?
Ben, c'était un moment de nostalgie. Évidemment, ça ne nous rajeunit pas parce que Pascal a commencé à RDI en 1995. C'est elle qui a été une des premières animatrices du réseau de l'information, d'un réseau de l'information 24/7. Et j'étais là, moi, à Radio-Canada à cette époque-là, et je l'ai côtoyée. C'est une femme de cœur, une grande dame. Évidemment, ben, si Pascal a décidé de prendre sa retraite, c'est parce qu'elle a des plans, c'est qu'elle voit son avenir ailleurs. Alors, je lui souhaite le meilleur.
Alors, je sais que, comme je viens de le mentionner, qu'elle avait quand même 2 parents très connus en la personne de Pierre Nadeau. Je me rappelle que j'écoutais, en fait, des entrevues qu'il avait organisées en Haïti avec François Duvalier.
Je me souviens de cette entrevue-là, mythique.
Également. Oui.
Oui, exactement. L'entrevue avec Baby Doc Duvalier que quelqu'un, un de vos auditeurs, je crois, m'a envoyé sur mon compte Facebook, sur Messenger, et j'ai revu cette entrevue-là avec Baby Doc Duvalier. Fascinant. C'était un intervieweur incroyable, Pierre Nadeau. Et je vous dis, Raymond, je pense que c'est Pierre Nadeau qui m'a inspiré, qui a fait en sorte que un jour j'ai décidé de devenir journaliste. Et c'était ces émissions-là, le 60, format 60, que je suivais toujours quand j'étais toute petite, qui me fascinait. Puis évidemment, France Nadeau aussi, c'est une grande journaliste, une grande intervieweuse. Pascal a grandi là-dedans. C'est quand même, ça devait être quand même très inspirant.
Alors, et pour terminer avec le défunt Pierre Nadeau, c'est que non seulement il a interviewé Papa Doc et Baby Doc, et même Roger Lafontaine, qui était quand même, je dirais, un serviteur du régime à l'époque.
Oui, ben moi j'ai vu l'entrevue avec Baby Doc récemment. Et puis ben les autres entrevues, j'étais trop petite pour me souvenir en détail de l'entrevue avec Papa Doc ou avec Monsieur Lafontaine. Mais je garde en mémoire des grands reportages de Pierre Nadeau un peu partout. C'est un sens de la vulgarisation, de l'analyse en même temps qui était remarquable.
Alors, pour en terminer, je sais que vous avez beaucoup de sensibilité pour Haïti, comme ami d'Haïti, et vous êtes dans une circonscription et avec une communauté assez forte. Quand vous voyez ce qui arrive actuellement en Haïti, on est à la veille d'élections fédérales, est-ce que vous ne pensez pas que le Québec quand même, en tout cas, comment je pourrais dire ça?
Faire une différence?
Oui, bien sûr.
Ben, écoutez, je suis députée de Bourassa-Sauvé, probablement la circonscription où il y a le plus grand, où la diaspora haïtienne est en plus grand nombre. Je pense que le tiers de nos citoyens dans Bourassa-Sauvé sont d'origine haïtienne. Alors évidemment, quand il arrive des choses en Haïti, quand il y a des drames qui jouent, des crises humanitaires, on sent le drame chez nous. Et moi, je me sens une responsabilité comme députée de Bourassa-Sauvé d'être là pour mon monde et puis d'être sensible à ce qu'ils vivent. Alors, j'essaie de me mettre à la place de certains citoyens d'origine haïtienne qui ont de la famille là-bas, des frères, des sœurs, un papa, une maman, des enfants même. Il y en a beaucoup dans ma circonscription qui ont même des jeunes enfants en Haïti qui ont laissé là-bas. Et je peux pas être indifférente à ce qui se passe. Et je dois vous dire que depuis toujours, mais là, depuis un mois, c'est quand même affolant ce qui se passe.
C'est l'enfer.
C'est l'enfer. C'est une tragédie qui se joue en ce moment en Haïti, une crise humanitaire sérieuse qui se dessine, des dizaines de milliers de déplacés en ce moment en Haïti. On ne peut pas être insensible, évidemment, à ce qui se passe là-bas. Je réfléchis au rôle du Québec et aussi du Canada. Vous savez, le Canada, on n'a pas le poids de l'histoire comme les Français et puis les Américains. On jouit d'une certaine neutralité là-bas. Est-ce que on peut pas jouer un rôle à un moment donné? C'est à voir, mais vous savez, en ce moment, la situation est tellement complexe, et donc je sais pas. Puis du côté du Québec, on a la plus grande, en fait, le Québec a chez lui, je pense, le plus grand nombre d'Haïtiens au Canada. Je me souviens, moi, en 2010, après le tremblement de terre, Emmanuel Dubourg et M. Charest avaient monté un programme de parrainage qui partait du Québec. Est-ce que, en ce moment, la situation humanitaire est si grave et si épouvantable qu'on devrait pas, que le gouvernement Legault devrait pas avoir le leadership et puis de penser à un programme comme celui-là, un programme de parrainage, un programme humanitaire? On peut le faire au Québec, vous savez. Donc, je pense que c'est quelque chose que le gouvernement à Québec pourrait faire et devrait considérer. Considérant la situation, évidemment.
Et surtout qu'on a une députée ministre et qui a quand même un petit poids avec la communauté internationale.
Ben oui, Mme Giraud, ayant des parents qui sont nés en Haïti, j'imagine, doit être très sensible à ce qui se passe. Et en tout cas, moi, j'espère, met une certaine pression sur le gouvernement Legault, sur le premier ministre, pour penser à quelque chose, pour penser à un programme humanitaire pour Haïti. Et c'est pas comme si on est dans une situation où on a des problèmes de chômage au Québec. Là, en ce moment, on est en pleine pénurie de main-d'œuvre. C'est grave, c'est une crise. C'est sûr qu'il y a du travail pour ces gens-là. Donc, est-ce qu'un programme humanitaire pour Haïti ne serait pas quelque chose de tout désigné, considérant la situation?
Alors, pour terminer, je me rappelle que vous avez déjà fait une sortie sur le dossier d'Haïti. J'avais publié ça sur ma page. Et vous avez reçu des appels, même la nuit.
Rappelez-moi un peu, c'était quoi exactement?
Ah, je ne me rappelle pas exactement. En fait, vidéo que vous avez sortie.
Oui, j'avais fait. C'est intéressant parce que j'avais fait une vidéo. Il y avait eu encore une fois beaucoup d'instabilité en Haïti et j'avais amené une motion à l'Assemblée nationale. J'avais fait une déclaration, une motion à l'Assemblée nationale. Et un an plus tard. La vidéo est devenue virale à Port-au-Prince et en Haïti en général. Mais ma motion a eu deux vies, ma déclaration a eu deux vies. C'était assez particulier. Mais écoutez, mon cœur est avec les Haïtiens. J'y suis allée plusieurs fois. Mes concitoyens d'Bourassa Sauvé sont, beaucoup d'entre eux sont Haïtiens. C'est un pays qui me fascine. C'est un pays qui a tout mon cœur. J'espère vraiment pour le mieux et je pense à eux et j'espère qu'on sortira de cette crise-là.
Alors, c'est toujours avec plaisir que je vous reçois à l'émission Samedi Midi Inter. Je vous souhaite un bon courage et continuez à servir vos concitoyens et concitoyennes, pour ne pas dire votre population haïtienne qui habite à Bourassa Sauvé.
Ça me fera toujours un immense plaisir. Et ils peuvent venir me voir quand ils veulent. Ils ont juste à appeler.
Madame Paul Robitaille, députée de la circonscription Bourassa Sauvé, que vous venez d'entendre. Une petite pause.
Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir. Je vous reviens tout de suite après.
Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
Un message du gouvernement du Québec.
Montréal! La pandémie semble être sous contrôle. Le couvre-feu est terminé. Michel Studio de beauté is back. Attention, mesdames. La récréation est terminée. Coiffure, épilation, extension de style, onglerie, tresse africaine. Et pour vous, mesdames, messieurs, Boss Léon vous attend pour les toutes dernières tendances. Sans oublier votre transfert d'argent 7 jours sur 7 avec CAM, Unitransfer ou RIA, minute pour votre téléphone, ici ou ailleurs, 91-37 P9 au coin de la 46e, téléphone 514-321-9415.
Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
Alors, non pas oublier facile événement qui est arrivé au début du mois à Repentigny, côté que nous gagnons une grande communauté et noire, que nous sommes capables de dire, incluant Haïtiens et Africains. Nous gagnons avec nous là Pierre Richard Thomas de Média La Caille. Pierre-Richard, c'est avec plaisir que nous recevons l'émission Samedi Midi Inter sur Radio Sécurité à Montréal.
Merci beaucoup à Raymond Laurent. Bon, tout le monde Montréal connaît, c'est une émission qui est très écoutée, qui l'a depuis longtemps, et ça fait vraiment plaisir, nous vraiment contents pour nous dans l'émission aujourd'hui.
Alors, avant que nous rentrions dans les détails, la CAI Média à Repentigny, c'est qui ça lié?
La CAI Média, c'est un organisme communautaire que nous avons fondé, et ça fait plus que 13 ans, parce que nous avons vu que la communauté n'a pas assez représentée. Et non, un gros média, yo. Et nous dit, n'a pas fait bagaille, pas non. Bagaille à caille, non. Dans ce style, non. Et puis, nous avons commencé à faire de émissions, nous avons commencé à faire de conférences dans l'école pour nous mettre noir, yo, en valeur, pour nous mettre moun, yo, dans la communauté en valeur. Et puis, après quelques années, ça qui a passé au Tantinien, vini, fait nous aller en petit classe plus dans l'accompagnement monde qui subit profilage racial, monde qui subit discrimination. Et depuis 5 ans, nous avons travaillé, surtout dans Haute-Antigny, sous question profilage racial, sous question discrimination.
Bon, alors, sinon, tu as parlé de situation que nous vivons, parce que nous avons une possibilité pour me suivre en fait, hein, que l'île Repentigny, Montréal-Nord, hein, Rivière-des-Prairies, situation qui gagnait, même là, aux différentes. Hein. Donc, on est que à Repentigny, il n'a pas fait partie de la communauté urbaine de Montréal. C'est différent. Alors, et c'est une situation qui est quand même très grave. Avoir une belle voiture, eh bien, c'est soit qu'on a une drogue pour blanc et haut, OK, sans discrimination que nous disons, mais ou pas capable de gagner une belle voiture, alors que nous avons quand même des gens de la communauté, non pas du qui riches, mais qui gagnent des possibilités pour acheter n'importe quelle belle voiture que vous avez.
C'est ça, effectivement. Et dans Repentigny, policiers ont une tendance à croire que depuis yon moun sou yon belle machine, li c'est yon moun qui a vend drogue, li c'est yon moun qui volant ou li supposé checker. Et yon pas seulement checker et vérifier jeune garçon, mais yon vérifier jeune fille, yon vérifier toute qualité moun. Parce que ça qui passe, c'est que gen pile moun qui t'a vu Montréal pendant un certain temps, yon économisé, yon à l'école, yon a de poste, et puis yon besoin de vie tranquille pour famille, yon acheté kay Repentigny. Ça fait depuis 10 ans que ou jouen une réalité ça, plusieurs on a sorti Montréal, Saint-Léonard, Montréal, etc. Acheté kay Repentigny, c'est des moun qui ont des moyens tout qui acheté machine. Et depuis que ou a pour les mêmes lorsque ou pas habité Repentigny, depuis qu'on a venu Repentigny, les policiers étaient carrément, parce que vu qu'on pas connaît, on a zone, etc. Parce que pour eux même c'est un coup, on a dit que c'est une petite zone qui appartient à eux même et que l'autre monde n'a pas le droit de venir, et ils mettent eux là spécifiquement pour faire ça, pour vérifier noir qui a rentré. Depuis ce noir qui a rentré, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre Repentigny, mais à chaque fois qu'ils viennent Repentigny, la police qui est là. Alors, nous-mêmes, par exemple, dans la CAI Média, ça nous demande pour le ministère de la Sécurité publique qui a un droit pour faire ça, pour faire une enquête sous la police Repentigny pour vérifier pour qui ça c'est comme ça. Pour qui ça c'est pas comme ça Laval, pour qui ça c'est pas comme ça Longueuil, pour qui ça c'est pas comme ça l'autre côté, mais c'est pour qui ça c'est comme ça Boissia. Et nous, et à peine une mobilisation hein, depuis plus que 5 ans, c'est à partir de un professeur à l'école, Repentigny, qui a brûlé dans Mercedes, c'est dans BMW, pardon. Monsieur, il a tellement arrêté monsieur souvent à Repentigny, monsieur pas fait une semaine sans pas arrêter lui. Et c'est toujours la même question, hein? Et est-ce que machine n'a pour lui, etc., etc. Finalement, un jour, monsieur était en coche, il dit, pas de question, il fait 911 pour les policiers qui étaient là. C'est là que ça amène à l'arrestation, ça amène, etc. Actuellement, monsieur devant vous. Alors, plusieurs mondes commencent à sortir pour dénoncer l'action. Maintenant, et à devant la commission des droits de la personne, nous avons presque une vingtaine de plaintes qui déposées. Mais ce n'est pas seulement monde qui prend du machine. Jeunes haïtiens qui ont joué sous PAC, policiers viennent emmerder tout le temps. Yo nan la rue, policiers viennent emmerder tout le temps. Et nous gagnons plainte que nous déposons contre la police Repentigny parce que l'IBAI, l'année dernière, $16,000 ticket avec un groupe jeune noir qui a joué son PAC. Pendant ce temps, il y un groupe blanc qui a venu jouer après. Que yo tire les yo dit que y a joué tout yo ba blague à blanc yo après ça y aller. Alors c'est pour montrer comment que la police Repentigny raciste et en pile blanc dans Repentigny raciste. Nous gagnons plusieurs plaintes qui déposées soit pour de monde qui pas même Repentigny qui vit dans zone là et qui et yo yo ba yo ticket pour grand merci ou bien yo checké yo vérifié yo y a demandé oui ou pas rete repenti ça va faire la machine etc. C'est des questions qu'on ça y a posé moun yo. Alors toute plainte ça yo et que plusieurs moun gagné parce que commission droit de la personne a déclaré que villa ça l'a fait à son bagage raciste discriminatoire et ses profilages en fonction de race moun yo. Alors villa toujours contesté parce que yo même yo mettait dans tête yo c'est normal que ça y a fait c'est pas raciste c'est pas discriminatoire yo contesté décision commission droit de la personne non et qui déclaré que c'est raciste y a fait alors yo toujours contesté décision ça yo.
Alors n'a pas de chance pour nous retourner sur dossier ça on l'autre parce que donc on est que nous appuyé par CRA qui l'a depuis plus d'une trentaine d'années et par la Ligue des Noirs du Québec également parce que moi gagné Fonyemi qui était présent ainsi que Maître Bazin qui était là tout pour représenter la Ligue des Noirs du Québec. Alors pour nous terminer, qui conseille qu'on capable bailler frère nous actionner cap vivre situation discriminatoire ça dans repentiné pour nous aller.
En fait, nous-mêmes nous on dit que nous c'est des Canadiens québécois noirs pur laine. Et nous avons droit à vivre bon, ici, à tout, même gens avec les Québécois pur laine blanc. Yo. Et que nous disons tout le monde, il faut que nous continuions à gommer, il faut que nous vivions, nous ne pas quitter bon, ici, à bas. Nous avons fait toute activité, nous, et c'est pour tout ça, par exemple, dimanche, nous avons fait un gros carnaval, repentinés, nous invitons tout le monde à Montréal, tout le monde de tous côtés, Guerrara Diaz qui a venu, des groupes brésiliens qui là. N'a toujours continué, n'a vive, n'a fêté, n'a vive normal, nous pas qu'on a peur, nous dit tout le monde pas peur, et nous non pays qui libre, nous gain droit, nous qu'à défendre droit nous, et faut qu'on continue dénoncer pendant que y a mené vie normalement.
Alors Pierre Richard et Thomas, c'était un plaisir pour nous gagner avec nous, pour représenter Média Lacaille ou Lacaille Média. N'a pas souhaité aux bonnes chances et puis nous viens pour nous parler à très bientôt.
Merci en pile.
Alors là, c'était Pierre Richard Thomas que nous sommes là de la CAI Média qui n'a pas repentini. N'a pas fait une petite pause et puis n'a pas tourné avec l'autre information.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Frères et sœurs, c'est parti, content. Bateau Joël Bonhomme Shipping, on a boile dérapé. Mais attention, femme dit nous ça, restez 50 places. Ou même capitaine à la dernière minute, restez seulement 50 places. Pas oublier, bateau à l'installer, Bécancour, tout près de toi, rivière, c'est l'Alchita. Ou bien camion, ou bien tracteur, ou bien hélicoptère, ou bien sorgue, pour tes machines. Bateau à temps nous. Gain deux numéros de téléphone, frères et sœurs, ouvrez oreilles nous.
438. 992 83 43 ou le 201 435 15 70.
N'a pas sorti Bétancourt et n'a plongé directement Saint-Marc. Pas toi à boire le parti.
Avec le concours Gagner à être vacciné, votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours Gagner à être vacciné au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
Alors, moi, j'ai avec moi Jean-Rony Bonjolin et de DocPam. Alors, moi-même, je suis capable de dire que DocPam, c'est un service essentiel. Alors, M. Bonjolin, je m'appelle bienvenue sur les zones de Radio-Sécurité à Montréal.
Merci, merci beaucoup, Laurent, pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir pour moi, pour moi, jeudi, pour me donner un peu plus d'informations sur qui ça qui DOCPAM.
Alors, parlez-nous de DOCPAM.
Alors, la première des choses que je veux dire de DOCPAM, c'est que c'est une application téléchargeable que vous êtes capable de télécharger sous téléphone, pour qui parle plutôt en connexion avec un prestataire de soins et peu importe qui côtoie en fait en Haïti. Alors c'est genre que nous même dit là c'est un parfait agencement entre Amazon pour nous qui connaît Amazon et puis aussi avec Uber parce que ça lui permet tout. Par exemple, pour prestataire de soins, l'avantage qui est que ça le bail, c'est que prestataire de soins est capable de monter sur la plateforme, lui faire inscription, lui mettre le profil, lui, et lui dire exactement, par exemple, il doit un dentiste, il doit un infirmière, il doit un médecin cardiologue et tout. Il mettait à qui montant que le service libre, il mettait tout profil à jour, toute information de MSPP, numéro de licence libre, pour que tout le monde soit capable de monter sur l'application pour le REL et il est même capable de prendre un rendez-vous avec nous. Ça, rendez-vous, ça est capable. Un rendez-vous pour nous allouer docteur ou bien prestataire en clinique. Il doit prendre un rendez-vous pour faire un appel vidéo. Il doit aussi chatter avec patient à travers un texte ou bien un vocal. Et il doit aussi prendre rendez-vous pour que lui-même, par exemple, patient, il doit demander pour médecin ou infirmière là, venir la caille. Nous connaissons que nous avons certaines personnes âgées qui ne sont pas capables de trop déplacer. Alors, c'est dans ce sens-là que ce sont des services, comme on te dit à l'introduction, c'est un service qui est indispensable.
Alors, c'est dans le langage, bon, ici, on dit service essentiel. Alors, on voit que c'est un bagage qui facilite mon yo, non seulement le déplacement, et surtout, nous connaissons une carence qui vient au niveau de la santé. Alors, on croit que c'est un bagage que mon yo, il a dû apprécier à René.
Définitivement. Et là, nous avons ajouté quelques avantages aussi que prestataires, c'est-à-dire les non seulement prestataires, mais maintenant du côté des patients. Patients eux-mêmes, au perso du lab, ils permettent tout le monde, pas besoin de déplacer, ils sont capables de même être en connexion avec les médecins, mais ils permettent tout le monde aussi un dossier électronique qui va faire en sorte que peu importe, je dis à la médecine, je dois parler avec docteur Laurent, mais demain, je vais parler avec docteur Adi, et puis à ce moment-là, moi-même, je dois venir pour docteur Adi, j'ai accès à dossier. Moi-même, personnellement, je suis capable d'avoir accès à dossier électronique, ça, pour que n'importe qui côté mieux, que ce soit à l'étranger, que ce soit peu importe qui côté mieux, je suis capable d'avoir un docteur accès à dossier, ce qui vient en sorte qu'il est très, très facile. Et l'autre point aussi, c'est que lui permettre aussi au monde qui vit dans la diaspora, capable d'aider les familles qui est capable de vivre en Haïti par le fait que lui-même, il doit acheter et prendre rendez-vous pour mon ami qui vit en Haïti, ou bien il doit aussi définitivement prendre un paquet qui vient un ensemble de consultations, par exemple, sur le monde qui est diabétique, ou bien un monde qui est diabétique qui vit en Haïti. Alors, il y a des paquets qui fait pour les gens qui ont un problème de diabète et que lui-même est capable de gérer un certain nombre de consultations à travers le réseau. Et nous fait en fait des partenaires qui sont très stratégiques, comme par exemple la FADIMAC, DASH, Notre-Dame et encore des associations de médecins.
Pour nous terminer, Monsieur Bonjolin, et bon nombre de numéros de téléphone à côté que vous êtes capable de joindre au Canada et les États-Unis.
Alors, pour le Canada, les gens qui veulent contacter nous, la première des choses que nous avons dit, c'est que les gens qui veulent contacter nous, ils doivent passer au travers de contact@docpam.ca. contact@docpam.ca. Et puis par la suite, si vous voulez vraiment parler avec le monde, il doit appeler au 514 pour le Canada, 514 884-2778. 514-884-2778. Et pour les États-Unis, il doit aussi l'élu dans 786-399-90-61. Ça, c'est pour les États-Unis. Alors, pour finir, la dernière conclusion que nous avons bail, c'est que le fonds rappeler au niveau de l'Ouest que l'essence même de ce projet, c'est faire en sorte que nous faciliter, pour nous trouver une solution qui facilite l'accès aux soins de santé inclusifs et abordables. Alors, si on a pensé à santé, nous avons pensé à pour nous adopter, qui peut aider nous garantir santé, nous, peu importe qui côté nous.
Alors, c'est un plaisir pour nous te gagner avec nous, M. Jean-René Beaujolais. Et puis, nous pouvons souhaiter bonne chance.
Merci beaucoup. Et encore une fois, c'était un plaisir pour moi aussi de pouvoir donner un peu plus d'informations sur DocPam.
D'accord. Alors, nous allons faire une pause et puis nous allons retourner tout de suite après avec l'autre information.
Mare le olisha le bamina ai masa ipoto le bamina ai mrele le bamina salina goe Salina Bojo. jodi a manye. Salina go jodi a manye.
d'Amérique, de l'Océanie ou de l'Afrique, tous les yeux sont ouverts sur mon île, mon pays au destin si fragile. Haïti est une fleur sauvage, couleur de la nuit, couleur du rêve. Sa silhouette est angélique et douce, et sa voix, mélodie nostalgique. Haïti ne pleure
pas. Flash, flash. Alors, faut qu'on dise nous, jeudi samedi 14 août là, eh bien, Haïti prend un bon petit tremblement de terre. Alors, faut qu'on dise nous que très tôt matin là, eh bien, la famille relaie moi pour dire que il y a un petit tremblement de terre qui durait à peu près une minute. Eh bien, tout le monde est en prend la rue. Alors, c'est tout bagay qui n'en connaît dans le pays ça, criminalité et bagay naturel, eh bien, y a un tremblement de terre qui bouleversé en pile de côté en dans le pays.
Alors, nous connaissons que gen moun lè ou patan de professeur Saint-Elmi, yo di nou, yo mankon bagay. Et fok mwen di ou tout, et dernière entrevue que nous te fait, et li te fait un boom. Comme d'habitude, nous avons toujours gagné de bons panels. Alors, Mabzou, encore bienvenue à la CAIO. Et comment a été la semaine?
Bonsoir Raymond, bonsoir à tout le monde, bonjour tout le monde qui a écouté l'émission samedi midi inter. Eh bien, semaine non, c'est semblable avec toute l'autre semaine. Yo. Nous avons regardé qui s'est passé dans le pays, nous avons regardé qui s'est passé aussi à tout, au Canada.
Alors, et le nous garder, nous voyons que le pays a dégringolé de jour en jour. L'instabilité politique a continué à régner et les politiciens sont plongés dans la division comme à l'accoutumée.
Oui, bien sûr, parce que nous n'avons pas gagné un projet de société qui mobilise l'ensemble des forces vives du pays. Et chacun tire les ficelles de son côté pour tirer le maximum, étant donné les circonstances. Encore là, faudrait-il que nous ayons ensemble un projet commun, un destin commun, et surtout, surtout, un vivre ensemble. Et si nous n'avons pas gagné tout ça ensemble, nous n'avons pas formé une communauté politique, et à travers les questions qu'on pose, que l'opposition est divisée, la société haïtienne est divisée, et la société haïtienne n'est pas seulement divisée à l'intérieur du pays, la société haïtienne en général, la grande famille haïtienne, qu'elle soit de l'intérieur ou de l'extérieur, elle est essentiellement une société divisée. Nous ne sommes pas une communauté politique. J'ai tendance à dire que nous ne formons pas une nation non plus, parce que autrement, on aurait eu au moins un dénominateur commun qui ferait ensemble, qui ferait en sorte que nous essayions de défendre une cause commune. Rien de tout cela n'existe dans la société haïtienne contemporaine. Ça n'a pas toujours été le cas néanmoins. Mais depuis les 40 dernières années, l'individualité est devenue une façon de vivre dans ce pays-là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et ça s'est vu du côté de des organisations politiques également.
Alors, le NAPGA des situations de détresse que Haïtiens qui en Haïti vivent, c'est toute une tristesse, et Wilson, la pauvreté, la saleté et c'est des conditions inhumaines que nous sommes capables de dire.
Oui, bien sûr. Je me souviens que nous avons fait une émission l'année dernière, sans vouloir resservir de la nourriture d'hier à notre auditoire. Je vous dirais que peut-être j'aurais dû dire de la nourriture surannée, de l'information dépassée. Il se pose un problème fondamental en Haïti, au-delà des crises vraiment, au-delà de la misère, au-delà de toutes les péripéties que nous vivons. Et il y a un bagage qui démontrait, c'est que nous n'avons pas gagné ce qu'on appelle une citoyenneté. C'est à travers la citoyenneté, c'est à travers la vie de la cité, c'est à travers les statuts citoyens que l'on baille des droits sociaux et des droits politiques à des individus ou à des concitoyens dans un pays. Comme le concept même de citoyenneté n'existe pas dans ce pays-là, de telle sorte que même quand on gonfre au cap vivre dans une situation qui est infra-humaine, on n'est pas senti qu'on est concerné par ça. Et plus grave encore, politique, il n'y a pas senti qu'il est concerné par ça non plus. Donc, il faudra tôt ou tard, et c'est aussi un de mes rêves le plus cher, qu'Haïti et que les Haïtiens parviennent à se doter d'une véritable citoyenneté. Exemple, Jovenel Moïse qui est assassiné dans sa chambre à coucher, sans qu'il y ait ne serait-ce qu'une coquerelle dans sa maison à avoir perdu la vie, excepté le président lui-même, eh bien, ça signifie quoi? Personne n'est prêt à sacrifier rien pour personne. Donc, on n'est pas prêt à vivre ensemble, et vivre ensemble suppose un certain nombre de droits, mais aussi de devoirs, un certain nombre de privilèges, mais aussi d'obligations citoyennes. Et ça, ça n'existe pas chez nous. Le fait de pouvoir vivre comme un être humain fait partie des droits sociaux, ce que nous, on appelle au Canada et au Québec les droits sociaux du citoyen. Ces droits sociaux sont des créances. Exemple, le fait de pouvoir manger 3 fois par jour. Exemple, le fait de pouvoir se soigner. Exemple, le fait de pouvoir vivre sous un toit. Exemple, le fait d'avoir droit à des études. Exemple, le fait d'avoir une couverture sociale quand on n'a pas d'emploi. Ce sont tous des droits sociaux qu'on appelle des créances de l'individu envers l'État. Or, pour avoir ces créances envers un État, encore là, faut-il que vous ayez un statut. Et ces statuts, c'est les statuts des citoyens. C'est la citoyenneté qui donne ces droits-là. En Haïti, nous n'avons pas construit une citoyenneté. Nous n'avons pas construit un État. Nous n'avons pas construit une nation. Donc, comme il n'y a pas de nation, comme il n'y a pas d'État, comme il n'y a pas de citoyenneté, l'individu est abandonné à lui-même. C'est que le plus fort, le plus gros mangeur est capable de manger le plus faible et sans pitié. Et c'est ce à quoi nous assistons dans ce pays-là. Et c'est ce qui explique aussi, Raymond, que des hommes comme toi, comme moi, comme mon voisin, comme d'autres compatriotes d'origine haïtienne se retrouvent à l'étranger en quête d'une citoyenneté à part entière. Pourquoi nous ne retournons pas en Haïti? On ne retourne pas parce que ici au Québec, on nous accorde le statut de citoyen à part entière, malgré ce qu'on dit, malgré ce qu'on pense, malgré ce que croient certains, malgré ce qu'ils ne croient pas d'autres. Nous avons un statut réel de citoyenneté ici au Canada. Le statut de citoyenneté, ça n'existe pas en Haïti, donc il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de devoir, il n'y a pas d'obligation citoyenne.
Et Wilson, et nous te fait une petite pause après l'assassinat du président de la République d'Haïti. Nous sympathisons à famille et à membres de sa formation politique. Mais plus on avance, est-ce que nous parlons encore dans le noir et c'est petit à petit? Nous voyons que des bagailles qui sont sorties, ça va surprendre maintenant. Mais pour un pile, mon équipe avec un coup, je suis capable de dire que c'est parce que je ne dis pas moi, mais ouais, PHTK. Nous avons toujours baillé opinion, ou toujours baillé opinion, et tant d'autres de nos analystes. Mais de plus en plus, nous commençons, oui, et Wilson.
Ce qui se passe actuellement vraiment en Haïti, c'est que ce pays-là, pour une dernière fois, est en train de démontrer, suite à l'assassinat horrible du président Jovenel Moïse, qu'à côté de la réalité tout court, il y a la réalité haïtienne qui est une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus complexe, beaucoup plus fuyante, beaucoup plus difficile à saisir. Et cette horrible histoire est en train de faire ressortir le vrai visage de ce pays-là, l'hypocrisie des uns et des autres, mais aussi l'opportunisme. Que l'on puisse penser que PHTK pouvait être un adversaire ou un ennemi d'un président que Jovenel Moïse lui-même, pas Jovenel Moïse, Michel Martelly lui-même est allé chercher, que l'on puisse voir aujourd'hui combien de personnalités dont les noms sont cités dans cette sordide affaire, eh bien, cela rend triste. Cela rend ce pays-là tout simplement dans une classe à part pour les mauvaises raisons. C'est tout ce que je peux te dire, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe actuellement en Haïti avec des grilles d'analyse classiques, celles avec lesquelles nous travaillons ici au Québec en matière d'analyse géopolitique ou même d'analyse sociale. On ne peut pas utiliser ces grilles-là pour comprendre ce qui se passe en Haïti.
Et moi, je vais jusqu'à dire une basse classe.
Et vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Imaginez-vous, Raymond, que ce soit vrai ou non, le nom de M. L'Espérance est trempé dans cette affaire-là, dans cette sordide affaire d'assassinat de Jovenel Moïse. Comment pouvait-on s'imaginer qu'un défenseur des droits humains puisse se retrouver, son nom puisse se retrouver dans une sordide histoire qui fait table rase de la notion du droit, qui est la négation même d'un état des droits, et qui est aussi la négation du droit. Le droit à la vie, c'est un droit sacré, c'est un droit naturel.
Mais j'ai des petites nouvelles pour toi, mon cher ami.
Allez-y.
J'écoutais Pierre Espérance, qui était l'invité de Valérie Numa le mercredi 4 et août. Eh bien, c'est quand même triste d'entendre cette entrevue pour ça qui t'a passé autour de Jovenel Moïse. Alors, étant donné que Mbabral passé entrevue, mais j'ai eu quand même l'opportunité de l'entendre parce que j'écoute souvent Vision 2000 depuis 5 heures du matin jusqu'à l'invité du jour. Alors, je peux vous dire qu'il y a eu quand même des choses qu'on pensait secrètes qui a été dévoilées par nul autre que Pierre Espérance. Les membres du PHTK sont encore vivants. Il y a un premier ministre que Jovenel Moïse avait nommé avant son décès qui n'a pas été installé. Alors, l'autre en débagaille ça, on peut dire que c'est une tristesse. C'est une tristesse.
Si l'on parle de le premier ministre que Jovenel Moïse avait nommé, c'est
Ariel Henry, docteur Ariel Henry. Alors, il faut qu'on dise que les bails des noms, Mbadjo, qui est-ce que le cité, pas gagné entrevue à pour mal passer, et pas à le passer, ça a été fait dans Vision 2001, mais je peux te dire que c'était. On donne plusieurs noms. Imaginez-vous, on a même nommé une personne comme, on a accusé même une personne comme Dr. Harrison Ernest, qui a dû intervenir et on est capable de dire, étant donné que Jean Numa et Valérie Numa, comme un journaliste professionnel, il a appelé Dr. Harrison, quelqu'un qui avait mentionné son nom comme Yon Namoun qui fait partie de l'assassinat ou bien qui était contre participer à des rencontres. Alors, on ne veut pas rester trop là-dessus, mais... Non,
mais c'est surtout, ça laisse... que ce soit vrai, bon, que ce soit faux, le fait que ces noms-là circulent dans le cadre d'une enquête, premièrement, l'instruction de cette enquête-là est supposée être couverte sous le sceau de la confidentialité.
Pas avec Haïti, non.
C'est ce que je suis en train de vous dire également. Ouais. Des deux côtés, nous assistons à un drame. Au lieu d'assister à une véritable enquête criminelle, on assiste à des règlements de compte, ça et là. Mais en même temps, le fait que certains noms soient cités dans cette affaire-là, cela enseigne beaucoup sur l'état d'immoralité et le degré d'éthique de certains nombres d'individus dans ce pays-là. Parce que finalement, est-ce que l'assassinat de Jovenel Moïse finira par emporter la réputation de l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs politiques ou d'acteurs socio-économiques? Est-ce que c'est ce à quoi nous assistons? Je ne voudrais pas revenir là-dessus parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments d'information pour discuter de cette question-là. Je n'ai pas fouillé la question, mais quand j'observe de loin le déroulement de cette enquête, les noms qui circulent, premièrement, pourquoi ces noms-là sont publics, hein, sont rendus publics, il doit avoir une raison. Deuxièmement, à partir du moment où un nom est cité par un prévenu ou un inculpé, eh bien, le travail de la police est d'enquêter si oui ou non c'est fondé ou ce n'est pas fondé, mais ce n'est pas nécessairement une manière de faire que de publiciser ces noms sans avoir des preuves, sans avoir nécessairement la possibilité, sans donner la possibilité à ces personnes-là dont les noms ont été cités de se défendre, de défendre leur réputation. Mais on assiste déjà à l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est une tragédie, mais l'enquête aussi est en train de tourner à la tragédie, à mon avis.
Alors, c'est toujours un plaisir que nous venions avec nous, et c'est un dossier à suivre. Et nous commençons une série sur l'éducation, et monsieur que nous gagnons pour nous faire une avec vous, parce que nous voyons que l'État est absent dans deux dossiers que nous sommes capables de dire, c'est la santé et l'éducation. Nous commençons avec plusieurs monde qui investissent leur temps et leur énergie et pour aider les jeunes en Haïti, comme c'est le cas pour un professeur Nesli Maniga, et ou même comme
pédagogue. Qui fait un excellent travail, en fait.
Comment?
Qui fait un excellent travail.
Tout à fait. Alors, j'ai l'impression que la prochaine fois, nous avons gagné pour nous faire parler sur la question de l'éducation également.
Je suis volontiers, vraiment.
Avec plaisir, mon cher, et je te souhaite une agréable fin de semaine.
À très bientôt.
C'était professeur Wilson Saint-Elmy, que nous sommes là, nous prenons une pause et puis nous retournons tout à l'heure.
Je t'en prie, refais ton maquillage.